Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut, puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Ésaïe chapitre 53 et le verset 2 et 3 est mon texte pour ce message, et je voudrais vous parler de l'homme de douleur. Quand nous pensons au Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un titre que peut-être les hommes dans leur pensée n'imaginent pas que ça peut correspondre, surtout à sa gloire et son honneur, étant le Fils de Dieu. Pourtant, c'est le titre que lui-même il a accepté en venant dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu le Père et sauver ceux que le Père lui a donnés. Et ici, dans Ésaïe 53, et les versets 2 et 3, nous voyons cette expression prophétique au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, et voici d'où le titre maintenant est tiré, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors, tout d'abord, dans ce passage, nous voyons la venue du Seigneur Jésus-Christ annoncée, sa venue dans le monde. Je sais qu'il y a les Juifs qui sont encore dans l'incrédulité, et pour eux, ils ne peuvent pas accepter que cela soit des paroles qui parlent d'un Messie. Pour eux, si le Messie vient, il doit venir avec puissance et grandeur, et pour eux, ils attendent le jour où un Messie viendra, et ce Messie va rétablir le royaume d'Israël. Voilà ce que les Juifs d'aujourd'hui s'attendent, et même au temps de Christ, quand il est venu dans le monde. Et il se présentait comme le Messie. Le mot Christ signifie le Messie. Quand Pierre disait dans sa déclaration que tu es le Christ, le Fils de Dieu, Christ lui a dit que il n'a pas appris ça de la chair ou bien des hommes ou du sang, mais ça a été révélé par le Père qui lui a donné cette connaissance de qui Christ est. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 16 et le verset 17. Dans le verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce mot « Christ », c'est un titre. « Tu es le Messie. » Il était en train de confesser que toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient du Messie qui devait venir, voilà, il était là dans la personne du Seigneur Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, cela veut dire tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, beaucoup aujourd'hui lisent aveuglement des passages comme nous voyons ici dans Ésaïe 53, disant que non, ici il s'agit des souffrances du peuple d'Israël. Voilà comment ils comprennent un tel passage. Mais nous allons étudier à travers ce chapitre, et ceci est le deuxième message dans une série de messages que nous sommes en train de voir en Ésaïe chapitre 53, et comment ce qui est écrit ici est prophétique de la mission et de la venue du Seigneur Jésus dans le monde. Et ce que nous pouvons dire pour commencer, c'est que il avait un commencement insignifiant. Cela veut dire aux yeux des hommes. Il n'est pas venu comme les gens s'imaginaient. Pourtant, il est venu exactement comme Dieu le Père a voulu. Et au moment, il a voulu. Et au temps que Dieu a ordonné depuis l'éternité. Et c'est écrit ici, nous voyons son commencement insignifiant dans le fait qu'il devait grandir devant Dieu comme une plante tendre. Ici, dans le verset 2, c'est écrit une faible plante. Et cela est important parce que si Christ est venu représenter des hommes pécheurs, donc il devait être un homme comme ceux qu'il représentait, sauf il ne pouvait pas être né avec une nature pécheresse. Voilà la différence. Mais il devait être un véritable homme afin de pouvoir représenter des hommes déchus. C'est pourquoi nous lisons dans la Bible que le sang des animaux ne pouvait pas servir comme sacrifice qui pouvait ôter le péché. Parce que la vie d'un animal ne peut pas représenter la vie d'un homme. Alors on peut se poser la question, pourquoi donc Dieu a ordonné à ce que les sacrifices des animaux soient offerts dans l'Ancien Testament pendant des années? C'est parce que ces sacrifices devaient servir comme image prophétique du seul sacrifice du Seigneur Jésus qu'il est venu offrir en tant que l'agneau de Dieu. D'abord, il y avait les images données, mais dans la personne de Christ, c'est là que nous voyons l'accomplissement. C'était nécessaire qu'il soit comme ceux qu'il devait venir sauver. Et c'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit qu'il y avait un corps qui lui a été préparé. Pourquoi un corps? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Pourtant, pour servir comme le substitut des pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour prendre la place dans la mort de ceux que Christ est venu sauver, il fallait que lui-même, il ait un corps. Parce que Dieu est esprit. Et un esprit ne peut pas mourir. Le jour que Christ est mort sur la croix, Dieu n'est pas mort. Pourtant, il est Dieu dans la chair. Mais un corps, lui, a été préparé afin que son sang soit versé. Alors, en tant que substitut ou bien représentant, il faut que ça soit un homme, mais un homme parfait. Alors, c'est pourquoi c'était nécessaire que Christ soit venu dans ce monde exactement comme ce qu'il est venu représenter. Il faut savoir que Christ n'est pas venu sauver ceux qui sont propres dans leur justice. Non, il est venu sauver des pécheurs. Alors, ce qui est décrit ici dans Ésaïe 53, étant élevé devant lui, cela veut dire devant Dieu, comme une faible plante, est une description de son humiliation. Il s'est humilié. Quoique Dieu, il s'est humilié pour venir dans ce monde et un corps lui a été donné comme ceux qu'il est venu représenter, mais il devait vivre alors cette vie d'humiliation afin de satisfaire la loi et la justice de Dieu pour le salut des pécheurs que Dieu lui-même a choisi dans sa grâce depuis l'éternité. Nous voyons cela décrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, en parlant de Jésus-Christ. C'est écrit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant, voilà, semblable aux hommes, dans le sens qu'il devait être un homme comme ceux qu'il est venu sauver. Et, notez bien, ayant paru comme un simple homme, non pas comme les Juifs imaginaient un Messie qui devait venir au monde avec une pompe et avec une puissance séculaire comme un monarque terrestre, mais ici, comme c'est écrit, comme un simple homme. Et notez bien verset 8, Philippiens 2, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors tout cela, nous voyons ici dans Ésaïe 53, son commencement insignifiant. Quand on parle de son commencement, il faut savoir que c'est son commencement dans ce monde. Sinon, il est depuis l'éternité. La Bible est claire là-dessus que Jésus de Nazareth est cet homme qui est venu dans ce monde comme Dieu dans la chair. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors, qui est cette parole? Quand on continue à lire jusqu'au verset 14, nous constatons que cette parole qui est Dieu est cette même parole qui a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, notez bien, du Fils unique venu du Père. Mais tout cela a été caché dans sa nature Dieu. Mais extérieurement, ce que les gens voyaient, c'était un homme simple. Imaginez l'image qui est donnée ici d'une faible plante. Qui considère une faible plante? Qui considère un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Alors, c'est avec raison que le Saint-Esprit a dirigé Ésaïe d'écrire de cette manière et de décrire le Seigneur Jésus. Il faut savoir qu'Ésaïe a prophétisé ces paroles quelques 400, 500 ans avant la réalité, avant l'accomplissement, lorsque Christ est venu dans le monde. Pourtant, nous voyons la précision, parce que ce que nous lisons ici correspond à la vie du Seigneur Jésus lorsqu'il marchait parmi les hommes. Jean, encore dans son évangile, nous dit la même chose. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 11, c'est écrit, elle, cela veut dire, la lumière était dans le monde. Elle est venue chez les siens, et c'est écrit, les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi les siens, cela veut dire les hommes, les Juifs, parce qu'il est né dans ce monde de la lignée de David, il était un homme juif. Quand il marchait partout, les gens ne voyaient qu'un homme simple, juif. Mais pourquoi ils ne l'ont point reçu? Parce qu'ils ne l'ont point reconnu. Et c'est ici maintenant que nous voyons le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas avec des yeux physiques que nous allons appréhender Christ, mais il faut des yeux spirituels. Et Christ lui-même a dit ça à Nicodème, dans Jean chapitre 3, que le Christ ne devait pas être reconnu par une pensée humaine ou bien une connaissance naturelle. Il dit dans Jean 3:3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ce que nous sommes en train de lire ici, dans cette prophétie d'Ésaïe, nous rappelle que devant les hommes naturels, ils ne voyaient point que ce Messie, celui qui était venu dans le monde comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, n'était autre que Dieu lui-même dans la chair. Pourtant, laissé dans cet aveuglement, alors c'était un jugement aussi de Dieu qui les a livrés à leur sens réprouvé. Et finalement, ils l'ont crucifié parce qu'ils ne croyaient pas en ce qu'il était. Pourtant, ils avaient ces mêmes écritures que nous lisons maintenant. Ces hommes de son jour avaient ces écritures. C'était ceux-là qui faisaient des copies des écritures. Mais dans leur aveuglement, ils n'ont pas reconnu le Christ. Alors, voilà pourquoi il est décrit là comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Eux, ils cherchaient un grand arbre. Pourtant, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il donne sa vie dans son humiliation. Et à travers ce sacrifice, Dieu a sauvé ce peuple pour qui Christ est venu dans le monde. Alors, il est décrit comme une racine qui devait pousser et grandir. Et Christ, en tant que racine, il était de la racine de David. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 10. Ces deux versets correspondent. Ce que nous lisons ici dans Ésaïe 53 et Ésaïe chapitre 11 et le verset 10, c'est écrit: en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Isaïe était le père de David et le Messie qui devait venir devait être ce rejeton préservé par Dieu lui-même dans sa souveraineté, parce que David, lorsque Christ est venu, était déjà mort depuis des années. Pourtant, Dieu a préservé cette lignée jusqu'à Christ. Et maintenant qu'il est venu, ce que nous lisons là, il est devenu maintenant la bannière pour les peuples. Les Juifs cherchent seulement un Messie pour les Juifs. Pourtant, Dieu a ordonné à ce que ce Messie, le Seigneur Jésus, racine de David, devait être une bannière pour les peuples, les nations. Il s'agit là des pécheurs de toute nation que Dieu lui-même a ordonné au salut et pour qui Christ est mort et que par son esprit, maintenant, il est en train d'appeler à travers son évangile que ces nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Cela veut dire qu'ils vont lui donner toute la gloire. Nous savons que ce passage est accompli dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ parce que dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 5, voilà le cantique qui est chanté au ciel. C'est écrit: et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. C'était un livre scellé de sept sceaux que personne ne pouvait ouvrir. Et ce livre représente le plan de Dieu pour le monde, pour l'univers, pour l'histoire. Et tout ce qu'il a prédestiné, tout ce qui est écrit dedans est déjà écrit. Le monde n'est pas en train d'évoluer présentement sans direction. C'est la main de Dieu qui dirige toutes choses selon ce qui est écrit. Mais personne n'est digne d'ouvrir ce livre si ce n'est, voyez, verset 5, Apocalypse 5, 5, le lion de la tribu de Juda. Et notez, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Cela veut dire que tout ce que Christ est venu accomplir est pour la gloire de son Père. C'est pas pour autre gloire que pour son Père. Et ayant maintenant accompli cette mission, la Bible nous dit clairement que ce même Jésus qui est venu, dont le début était d'une manière insignifiante, mais aujourd'hui, il est élevé à la droite de son Père dans la gloire. Et encore, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, nous voyons la conclusion. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue. Voilà ce que nous avons lu dans Ésaïe 11 et verset 10. Les nations se tourneront vers lui, des pécheurs de toute langue, de toute race, qui sont les élus de Dieu depuis l'éternité pour qui Christ est mort. C'est écrit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Notez bien, à la gloire de Dieu le Père. Alors, voilà pourquoi le commencement de la vie de Christ était de cette manière. Son humiliation devait finir par son exaltation. Et celui qui est venu comme une faible plante dans son commencement est aujourd'hui l'arbre de vie, et c'est de cet arbre que ceux qu'il est venu sauver vivent. Christ est notre vie. Maintenant, quand c'est écrit qu'il est venu comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ça aussi c'est compris dans le sens, premièrement, il est venu dans ce monde né d'une vierge, donc on peut comprendre cette terre desséchée de l'utérus d'une vierge, mais aussi ça peut signifier la nation juive qui était dans l'aveuglement et qui ne s'attendait pas à ce que le Messie sorte de son milieu comme il est venu. Aussi, on peut comprendre cela dans le sens d'une famille pauvre, déchue et misérable, telle que Christ et sa famille dans laquelle il est né. Ce n'était pas, aux yeux du monde, la royauté. Il est né dans une famille pauvre. Mais plus que tout cela, je dois dire que il est sorti d'une terre desséchée spirituellement. Cela veut dire dans un monde déchu et perdu comme un désert. Et tel est l'état des hommes qu'il est venu sauver. S'il y avait un pouvoir dans les hommes de contribuer à leur propre salut, donc Christ serait venu en vain. Mais cette terre desséchée est une description de la nature humaine. Les gens aiment parler aujourd'hui du libre arbitre, mais je dois vous dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. La volonté de l'homme n'est pas libre de choisir. La volonté de l'homme est déchue et laissée à lui-même, l'homme ne viendrait jamais à Christ dans le salut. C'est pourquoi c'était nécessaire pour Christ de venir de la manière qu'il est venu. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 78, nous voyons ces paroles inspirées. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous voyez comment Christ est décrit? Le soleil levant nous a visités d'en haut. Et notez, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Tel est notre état en Adam, né dans la chair, nous les hommes. Mais Christ est venu et il a pris un corps pour s'identifier avec ceux qu'il est venu sauver. Donc, pour les pécheurs qu'il est venu sauver, il est ce soleil levant pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est Christ qui est cette paix. Alors, voilà le contexte que nous avons ici dans Ésaïe chapitre 53 et pourquoi Christ est identifié comme un homme de douleur. Et il y a beaucoup ici que nous ne pouvons pas toucher dans le temps que nous avons, mais je voudrais simplement dire que sa présence corporelle, c'est écrit, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc il n'avait ni forme ni beauté, la manière que les artistes essaient de peindre son visage, comme s'il avait une certaine beauté, mais ici, il n'avait ni forme ni beauté. Sa présence corporelle et sa condition dans le monde étaient pour les hommes comme quelqu'un méprisable. Et laissé à nous-mêmes, on n'allait jamais tourner le regard vers lui. Mais c'est Dieu qui a ordonné à ce que ça soit ainsi, pour que la gloire soit à Dieu en attirant des pécheurs à Christ, pas à cause d'une beauté quelconque extérieure, mais à cause de sa personne et son œuvre, que lorsque l'Esprit de Dieu ouvre les yeux des pécheurs, ils voient en lui le salut. Alors, il est appelé ici, dans le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Tel était son sort, comme le substitut des pécheurs qu'il est venu sauver. Donc la prochaine fois, nous allons continuer à voir ça en profondeur. Dans quel sens est-ce qu'il était méprisé et abandonné des hommes? Nous savons qu'il était un homme de douleur et habitué à la souffrance parce qu'il a pris sur lui le péché de ceux qu'il est venu sauver. Et c'est pour cela que ceux qu'il a sauvés par une vie d'obéissance parfaite à son Père et par sa mort efficace, ceux qu'il a sauvés sont maintenant acceptés devant Dieu. C'est parce qu'il a accepté d'être méprisé et abandonné des hommes et prendre sur lui cette douleur et cette souffrance qui était la nôtre, mais pour nous sauver maintenant, Dieu a placé ça sur lui comme le substitut. Tout cela est fait pas pour attirer une certaine sympathie ou de pitié envers Christ. Non, c'est nous qui sommes méprisables. Et nous avons besoin d'un tel sauveur qui prend toute la charge sur lui-même. Si nous voulons voir la manière que Dieu déteste le péché, il faut savoir comment est-ce qu'il a dû traiter son fils. Il n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré à la mort. Voilà ce qui doit nous montrer combien est grand notre péché, si cela était exigé de lui pour sauver des pécheurs tels que nous sommes. Mais c'est ce que Dieu a ordonné, afin que le salut soit entièrement de lui. Alors que le Seigneur continue à nous donner des yeux et un cœur pour voir dans ce passage les souffrances de Christ, tout ce qu'il a enduré, comme le sauveur des pécheurs tels que nous sommes.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shreve.com. grace.org.